Alors, ce que nous ont montré les jeunes, vous l'avez compris, c'est que du point de vue des probabilités, ce qui se passe lors de la venue au monde de Jésus est juste dingue. Normalement, un échec critique, ça arrive une fois dans une partie, mais alors les enchaîner, c'est pas possible. Et c'est justement ce qui en fait un événement sans précédent. En effet, dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun autre passage qui regroupe autant de miracles que le récit de la naissance de Jésus. On peut en faire la liste, hein. Il y a tout d'abord l'apparition de l'ange à Marie, puis la conception virginale du Christ, puis un ange qui apparaît à Joseph pour lui expliquer ce qui est en train de se passer, puis l'apparition des anges aux bergers pour leur annoncer la naissance du Sauveur, puis il y a cette mystérieuse étoile qui va guider les mages, puis un ange qui apparaît aux mages pour leur dire de ne pas retourner voir le roi Hérode, et enfin un autre ange, décidément, qui apparaît à Joseph pour lui dire de fuir en Égypte parce qu'Hérode veut faire mourir l'enfant. Ça fait énormément de miracles dans un récit qui est finalement très court. Moins de 2 chapitres dans l'évangile de Matthieu et même pas 1 chapitre entier dans l'évangile de Luc. Noël est pour nous un événement particulier parce que Dieu l'a voulu ainsi. Dieu en a fait un événement particulier. Il a montré par l'ensemble de ses miracles que cette naissance était bien spéciale, que cet enfant n'était pas comme les autres. Et il a accompagné la naissance du Christ d'un véritable étalage de sa toute-puissance divine. Mais jusqu'ici, je n'ai parlé que des miracles évidents, flagrants, spectaculaires. Pourtant, très souvent, on l'a vu, on en a parlé aujourd'hui, l'œuvre directe et puissante de Dieu dans nos vies peut se faire beaucoup, beaucoup plus discrète. Elle peut même passer complètement inaperçue. C'est ce dont les ados nous parlaient, notamment dans leurs vidéos. Et dans le récit de la naissance du Christ, il y a un miracle dont je n'ai pas parlé, un miracle beaucoup plus discret. Et pourtant, à mes yeux, c'est un des plus spectaculaires de ce récit de Noël. C'est ce que nous allons regarder ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, les versets 1 à 7. Alors, je ne sais plus si je l'ai affiché. Non, je ne l'ai pas mis. Du coup, vous allez suivre avec moi. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le rassemblement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée, en Judée, à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant leur séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Il n'y a pas de miracle? Eh bien, si. Selon ce que Dieu a annoncé dans l'Ancien Testament, le Messie doit naître à Bethléem. C'est ce que disent les prophéties. Bethléem, une petite ville située à quelques kilomètres à peine au sud de Juda, de Jérusalem, en Juda. Mais petit problème, Joseph est effectivement originaire, en tout cas sa famille, de Bethléem, mais lui et Marie habitent assez loin de là, à Nazareth, environ une centaine de kilomètres au nord. Bon, c'est un problème, pas insurmontable, tout au plus une petite semaine de voyage à pied. Il suffirait à Dieu d'envoyer encore un ange de plus, de toute façon il y en a plein, pour demander au jeune couple de se rendre dans cette fameuse ville de Bethléem. Il suffirait de faire ça pour que la naissance de l'enfant s'y passe. Le problème serait résolu. Mais à aucun moment dans le récit, Dieu ne leur demande de faire ce voyage. Marie et Joseph n'ont donc aucune raison de se rendre à Bethléem. Et pourtant, nous avons vu que Dieu démontre l'étendue de sa toute-puissance dans cet événement de Noël. Et plutôt que d'envoyer un énième ange de plus, Dieu va montrer qu'il n'est limité par aucun obstacle dans la réalisation de ses plans. À l'occasion de la venue au monde du Messie, Dieu a décidé de manifester sa maîtrise totale de l'histoire, sa souveraineté sur ce monde. En effet, pour que s'accomplit ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, l'instrument de la volonté de Dieu va être ici un homme qui ne sait rien de l'Éternel. Un homme qui pense agir pour lui-même, qui ne cherche absolument pas à obéir à Dieu. Un homme qui ne cherche qu'à accroître son pouvoir, à accroître sa richesse. L'homme le plus puissant de son époque, l'empereur Auguste. Dans le récit de Noël, Dieu amène l'empereur à ordonner un recensement de tout l'Empire. Alors pour Auguste, le but est très simple. Si l'Empire connaît la population exacte de chaque pays de l'Empire et de chaque ville, eh bien ça facilitera la collecte des impôts. C'est son but. Ce recensement ne vise pas une obéissance à Dieu, il ne vise que l'enrichissement de l'empereur. Auguste pense diriger son empire. Il pense dominer, il pense décider, il pense maîtriser. Pourtant, c'est bien Dieu qui est aux manettes. Même le puissant empereur de Rome doit se soumettre à Dieu, qu'il le veuille ou non, qu'il en ait conscience ou non. Car ce recensement a en fait pour but premier, nous le savons, de permettre à Joseph et Marie, d'obliger Joseph et Marie à faire le voyage jusqu'à Bethléem, où aura effectivement lieu la naissance du Messie tel que Dieu l'avait annoncé dans l'Ancien Testament. Les événements que nous raconte la Bible et qui conduisent à cette naissance nous montrent avant toute chose que Dieu est réellement celui que nous pouvons appeler le Tout-Puissant. Il maîtrise l'histoire. Il réalise ses plans et rien n'est un obstacle à sa volonté. Voilà sur quoi se fonde notre espérance qui est manifestée le jour de Noël, la toute-puissance de Dieu. Les événements de notre monde nous dépassent bien souvent. Nous avons l'impression que tout se décide à des niveaux auxquels nous n'avons pas accès, que nous sommes impuissants. Je pense que ce sentiment, Marie et Joseph ont dit bien le partager lorsqu'au milieu de la grossesse, même sur la fin de la grossesse, ils ont été forcés de faire ce voyage d'une semaine à pied et à dos d'âne, sans qu'ils en aient l'explication. Ils ne savaient pas quel était le but. Nous avons également parfois l'impression que c'est la volonté du mal qui domine dans ce monde, qui s'impose autour de nous. Nous voyons parfois bien peu d'éclat de la volonté de Dieu dans l'actualité. Et pourtant, le récit de Noël nous le rappelle, lorsque Dieu a un plan, rien ne peut lui faire obstacle. Alors plutôt que de déprimer face à notre impuissance qui est réelle, reconnaissons-le, eh bien tournons-nous vers celui qui est le Tout-Puissant, vers celui qui n'est qu'amour et qui désire que les humains se tournent vers lui et vers le bien, vers celui qui n'a pas hésité à nous envoyer son propre Fils afin que nous puissions le connaître, afin que nous connaissions son message d'amour, son message de paix, son message de justice aussi pour nous-mêmes, par le pardon qu'il voulait nous accorder. Et dans nos prières, tout comme le Christ nous l'a enseigné dans le fameux Notre Père, que nous chanterons en fait un peu après, eh bien en nous tournant vers Dieu, demandant-lui sans cesse que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce miracle de la venue de Joseph et Marie à Bethléem, c'est pour moi, je l'avoue, après le miracle de l'incarnation en lui-même, qui est assez fabuleux, eh bien c'est pour moi le plus grand miracle que Dieu a réalisé lors de la naissance du Christ. Bien plus que la venue des anges qui obéissent déjà à Dieu, cette maîtrise, même sur celui qui n'a pas conscience de Dieu, est un miracle, je trouve, bien plus grand. En influençant le personnage le plus puissant de son temps, Dieu a permis qu'un obscur couple juif se rende dans une petite ville au sud de Jérusalem, pour qu'ainsi s'accomplisse ce qui avait été promis depuis des centaines d'années. Le Christ, Dieu devenu homme, allait venir sur terre pour vivre une humanité sincère, pour nous faire connaître celui qu'il veut que nous appelions notre Père, afin aussi de donner sa vie pour sauver la nôtre, simplement par amour pour nous. Alors si votre vie vous trouble, si notre monde vous dépasse, n'oubliez pas que celui que nous appelons à juste titre le Tout-Puissant se tient là, à votre écoute. Il nous appelle à nous tourner vers lui, à reconnaître nos faiblesses, nos limites et nos fautes, à l'accepter comme le Seigneur de nos vies qu'il veut être. Et Dieu, qui peut faire au-delà de tout ce que nous imaginons et pensons, nous promet alors de nous conduire dans sa présence, dans sa volonté et dans sa paix. À chaque instant de votre vie, gardez au fond de votre cœur comme une absolue certitude les derniers mots que l'ange a adressés à Marie et que les enfants nous ont rappelés. Rien n'est impossible à Dieu. Amen.